Now you finally have a president.
Enfin, vous avez un président, enfin.
The media.
Les médias ne pensaient pas qu'on gagnerait. Mais ils ont sous-estimé le pouvoir du peuple. Nous combattons les fake news. Donc je ne suis pas contre les médias, je suis contre les fake news médias.
Voilà, le président Trump en février 2017, très remonté contre les fake news et ceux qui les propagent. Et c'est donc notre sujet à la une de la science aujourd'hui, Héloïse Rambert.
Oui, alors que les fake news, ou en français les fausses informations, Donald Trump en a largement profité. Une étude américaine qui vient de paraître dans la revue Science Advances s'est intéressée à la propagation de ces fausses informations pendant les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis et surtout à qui était derrière son ordinateur pour les diffuser. Les résultats confirment que ce sont les sympathisants de Donald Trump dans leur écrasante majorité qui étaient à la manœuvre. Mais le travail des chercheurs met en lumière un point plus étonnant. Au-delà de l'orientation politique, c'est l'âge des internautes qui est déterminant quand il s'agit de relayer ou non une nouvelle farfelue. En fait, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus les fake news, en moyenne. Les utilisateurs de cette classe d'âge le font 7 fois plus que les 18-29 ans. Alors pour décrypter ces résultats, on reçoit Romain Badoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 2 et vous êtes aussi auteur de l'ouvrage « Le désenchantement d'Internet, désinformation, rumeurs et propagande ». Alors est-ce que déjà les résultats de cette étude vous étonnent ?
Non, les résultats ne m'ont pas vraiment étonné. C'est vrai que lorsqu'on suit les mouvements d'opinion sur les réseaux sociaux, on peut avoir le sentiment que ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui partagent le plus de fausses informations. Le problème d'un réseau social comme Facebook, lorsqu'on est un chercheur en sciences sociales, c'est que on n'a pas accès au profil sociodémographique des internautes, donc on ne sait pas vraiment qui sont derrière les comptes qu'on étudie, d'où l'intérêt justement de cette étude.
Alors, on rappelle que cette étude, elle est 100% américaine, hein. Il n'y a pas eu d'étude française équivalente. Mais est-ce que d'après vous, ces résultats peuvent quand même éclairer sur notre propre sociologie sur Facebook ?
Oui, disons qu'il n'y a pas de raison que les résultats soient différents en France pour la simple et bonne raison que la sociologie des utilisateurs de Facebook est à peu près la même aux États-Unis et en Europe. C'est vrai que Facebook, par rapport à d'autres réseaux sociaux, a cette particularité d'être populaire dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fois il est très utilisé et en même temps il est utilisé par les différentes couches de la population, contrairement à Twitter qui est un réseau plus élitiste ou par Snapchat et Instagram où les jeunes sont beaucoup plus représentés.
Alors pourquoi est-ce que les plus de 65 ans diffusent plus les fausses informations ? Ça semble un peu contre-intuitif pour nous.
C'est vrai, au moins ça brise quelques images quelques représentations qu'on peut avoir. Alors les chercheurs derrière cette étude avancent différentes explications. À mon avis, la plus convaincante, c'est que les plus de 65 ans sont assez autodidactes avec le numérique, ils n'ont pas forcément été formés ou sensibilisés aux enjeux des usages du numérique. On sait en France par exemple dans les études du Crédoc que 41% des plus de 70 ans qui utilisent Internet ont appris seul à s'en servir. Contrairement à 10% pour le reste de la population. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a été sensibilisé à ces questions-là à l'école, à l'université. Quand on est adulte, au travail ou par le biais de ses enfants. Mais quand on est retraité, on a souvent appris à s'en servir seul.
Mais à quoi on est sensibilisé finalement ? Au fait, par exemple, d'être attentif à la lecture d'un article, d'en rechercher la source, de voir si effectivement les propos tenus sont réels ?
Voilà, alors à l'école, il y a des ateliers d'éducation média dans lesquels on sensibilise les plus jeunes à ces questions-là. Et puis même le fait d'avoir grandi dans un écosystème numérique fait qu'on va acquérir ou intégrer un certain nombre de réflexes par rapport aux informations qui circulent.
Et pour cette catégorie de la population, les retraités, hein, est-ce que ce n'est pas aussi le moyen de s'exprimer par un biais numérique alors que la société peut-être leur donne moins la parole ?
Si, vous avez tout à fait raison de dire ça. On sait que le partage des fausses informations, paradoxalement, n'est pas lié à la crédulité. C'est-à-dire que si on partage des fausses informations, ce n'est pas forcément qu'on est naïf. C'est plutôt qu'on va adhérer au message qui est propagé par la fausse information sans forcément y croire dur comme fer. Par exemple, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes en ce moment, il y a beaucoup de journalistes qui ont parlé des fausses informations qui circulaient sur les groupes de Gilets jaunes, mais On peut aussi imaginer que ceux qui les diffusent, que ce soit des images plus anciennes que le mouvement ou autre, cherchent plutôt à faire passer un message politique plutôt qu'à vraiment chercher à informer leurs contacts. Donc les fake news sont devenus effectivement une forme de support de l'indignation citoyenne. Aujourd'hui, c'est un phénomène très important.
Et vous parliez des ateliers d'éducation aux médias. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment revoir notre façon de faire et essayer de toucher tout le monde? Et est-ce que c'est même possible?
Alors, en tout cas, ce que montre l'étude, c'est effectivement qu'on pourrait sortir des salles de classe pour faire de l'éducation aux médias autrement, peut-être passer par les espaces publics numériques ou aller faire de la sensibilisation dans les lieux de sociabilité des seniors, ça c'est sûr.
Donc ça, c'est les plus jeunes qui vont éduquer leurs parents, finalement, dans cette histoire.
Effectivement.
Et le papier confirme aussi donc que l'orientation politique est importante. C'est un peu moins une surprise, mais comment on explique que ce soit plutôt les conservateurs, la droite, voire l'extrême droite qui soient très actifs sur ce front?
Alors effectivement, c'est pas une surprise. On sait que les plus conservateurs en France, les personnes plus marquées à droite ou à l'extrême droite partagent plus de fausses informations. Et ça s'explique par le fait que ces fausses informations sont majoritairement produites par des réseaux situés à l'extrême droite du spectre politique, c'est-à-dire qu'elles sont aussi utilisées par des réseaux que certains journalistes qualifient de fachosphère, justement comme outil de propagande politique.
Et pour terminer rapidement, on apprend que seulement 8,5% des gens en pratique partageaient ces fake news. C'est pas si énorme que ça. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler autant, les fake news?
À l'échelle du nombre d'utilisateurs de Facebook, 8,5%, c'est pas anodin. Mais vous avez raison de dire qu'il y a peut-être une forme de panique morale par rapport à l'effet de ces fausses informations. Des rumeurs, il y en a toujours eu. C'est un phénomène important. Maintenant, leur véritable impact sur l'opinion, il est assez limité.
Merci beaucoup Romain Badoir. Vous êtes, on le rappelle, l'auteur de ce livre, Le désenchantement d'Internet, désinformation, rumeurs et propagande, qui est sorti chez quel éditeur?
Chez FIP.
Merci beaucoup Héloïse, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la fonte annuelle des glaces de la péninsule antarctique, plus rapide que jamais, environ 6 fois plus rapide qu'il y a 40 ans, ce qui entraîne une hausse de plus en plus importante du niveau des océans. C'est ce que nous apprend un compte-rendu de l'Académie américaine des sciences. L'amoindrissement des glaces du continent blanc est responsable d'une montée d'1,4 cm du niveau des océans entre 1979 et 2017. Selon les auteurs, le rythme de fonte anticipé devrait entraîner une élévation désastreuse du niveau des eaux dans les prochaines années. De nombreuses villes côtières pourraient être engloutis. En Australie, des centaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts dans les fleuves du sud-est du pays. Les berges de l'immense bassin hydrographique Murray Darling empestent désormais la pourriture. L'événement a un retentissement national et le Premier ministre australien parle de désastre écologique. Selon le gouvernement, c'est la sécheresse qui est responsable de cette hécatombe. Pour les universitaires, il s'agit plutôt d'une mauvaise gestion des cours d'eau. La propagation d'une algue pourrait être aussi en cause. Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud redoute une aggravation de la crise avec des températures annoncées cette semaine à la hausse. Et puis les milliards de bactéries qui habitent votre intestin, en plus de vous aider à digérer et réguler votre système immunitaire, pourraient trahir votre âge. Des chercheurs dont le travail est publié dans la revue Science ont découvert que le microbiote intestinal est une sorte d'horloge biologique d'une précision étonnante, capable de prédire l'âge de la plupart des personnes à quelques années près. Si ces données sont confirmées, les bactéries intestinales pourraient s'ajouter à d'autres biomarqueurs utilisés par les scientifiques pour prédire l'âge biologique, comme la longueur des extrémités des chromosomes ou les modifications de l'expression de l'ADN au cours de la vie.